Et c'est reparti sur le plateau de Radio Court Circuit. Nous sommes ici à Saint-Sulpice-la-Forêt. Nous avons quatre invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? On commence par là-bas.
Je m'appelle Frédéric Bourgeon. Moi, je suis ingénieur de formation et je travaille sur le projet là, de préfiguration urbaine, notamment.
Ok, moi, c'est Aymeric Georget. Je viens du milieu du design et mon travail, c'est de revaloriser la terre par le biais de l'art ou du design, justement. Et puis ici, la mission de la fresque pour regrouper les gens autour et valoriser ici, montrer que la terre peut tenir dans le temps aussi.
Bonjour, moi c'est Jean-Pascal Josselin, je suis le directeur de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes, l'IAER, donc, qui est un groupe en intérêt scientifique qui fédère 6 établissements sur le site universitaire rennais. Et nous sommes engagés depuis plusieurs années désormais dans un programme de recherche et développement qui s'appelle Ecomater, autour du développement du matériau terre crue. Et c'est notamment dans ce cadre-là que nous sommes engagés dans la démarche à Saint-Sulpice-la-Forêt.
Et moi, c'est Thomas Onfray, je suis conseiller municipal à Saint-Sulpice-la-Forêt et maçon terre crue aussi.
Super, donc on a voilà, nos quatre invités qui sont à la fois des chercheurs, des universitaires, des ingénieurs, voilà, des artisans, des artistes, on peut le dire aussi. Donc c'est parti, parlons du coup de cette... terre crue. Déjà, pourquoi crue ?
Bon, d'accord. Pourquoi crue ? Crue, ça veut dire pas cuite en un, et ça veut dire sans adjuvantation hydraulique, et donc qu'elle est peut retourner à la terre. Elle est réversible. Et voilà, on lui a rien ajouté qui l'empêche de, enfin, qui casse le sol durablement. On est déjà dans l'économie circulaire avant d'avoir créé le concept.
Excellent. Et du coup, cette terre crue, on est d'accord, le but, c'est qu'elle soit le plus locale possible. Donc là, c'est de la terre du coin. On reste sur la commune de Saint-Sulpice, on va un petit peu autour, selon les besoins. Comment ça se passe ? J'ai vu qu'il y avait, selon les endroits, elle n'est pas tout à fait pareille. Même à l'intérieur de la commune, il y a des terres de nature différente, on peut dire.
C'est vrai, pour le diagnostic des terres, il y a eu plusieurs, au moins trois puits, je crois, ouais. Et certaines correspondent mieux que d'autres, mais on peut bâtir généralement avec toutes les terres. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus faciles à l'usage, qui demandent peut-être moins d'eau ou moins d'efforts aussi. Et pour ce qui est de la fresque, notamment, c'est des terres que je récupère un peu partout des chantiers, puis on utilise bien sûr celles aussi du coin. Et pour les enduits de corps qui avaient été utilisés pour restaurer aussi toute la fresque, c'était quand même la terre du coin. Et en fait, mais c'est tout à fait logique puisque c'est si lourd à transporter. Et ça, en fait, ça serait presque, c'est ça. Pour moi, c'est l'énergie du transport qui est peut-être qui est liée à la terre crue, quoi. Sa densité, mais qui est aussi sa force, en tout cas pour l'inertie et compagnie. Donc en fait, si on peut vraiment construire avec la terre du coin et déjà qui est excavée de partout, bah on rentre encore de nouveau dans l'économie circulaire.
Ouais, pour compléter un petit peu, effectivement, ici, on a mené ce qu'on appelle une étude de convenance, où on a réalisé des excavations à la pelle mécanique, en l'occurrence, pour aller extraire des volumes modérés, on va dire quelques centaines de litres des différentes couches de terre qui se trouve là sous nos pieds. La première couche qu'on rencontre, c'est de la terre végétale. Celle-là, elle ne nous intéresse pas pour construire. Celle-là, on la laisse volontiers aux usages agricoles et enfin, pour nous nourrir, ce qui est quand même assez primordial.
Vital,
exactement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les couches minérales qui sont en dessous.
En fait, c'est à combien de mètres en dessous ?
Bon, souvent, la couche végétale, c'est 20 cm dans les endroits où ça a été très érodé, 50, 60 cm en général, 1 mètre quand on est sur des zones qui ont été très préservées de l'activité humaine. Vraiment, quand on a 1 mètre de terre végétale, on est un peu dans la pampa, quoi. Là, autour des villes, ici, on a dû rencontrer quelque chose comme 40 cm, un petit peu plus sur les hauts du village, qui étaient historiquement des jardins. Et du coup, comme ils ont été cultivés pour être nourriciers, là, l'épaisseur de végétal était bien plus profonde. Mais en gros, nous, à partir d'un mètre, un 50 cm à un mètre, on commence à avoir de la matière qui peut être intéressante. Et la couche qui va nous intéresser, elle peut être présente sur des dizaines de mètres. Mais arrivé à un moment, en fait, elle est si loin qu'elle ne nous intéresse pas pour bâtir. Nous, l'intérêt, c'est d'utiliser la terre qu'on peut extraire pour faire les fondations d'un bâtiment ou pour remanier le paysage, parce qu'on en a besoin pour l'aménagement. On ne va pas aller creuser pour extraire de la terre comme si c'était une carrière. Enfin, ça, c'est vraiment pas notre enjeu. Nous, on va faire avec ce qui est un dégât collatéral de l'aménagement, en fait. On n'a pas de velléité à exploiter cette matière-là. On fait avec celle qu'on sort pour d'autres raisons, d'autres très bonnes raisons, et on la valorise autant que possible et de manière très locale. Vraiment, c'est la démarche dans laquelle nous, on s'inscrit.
Du coup, le but aujourd'hui, il est à la fois, par exemple, cette fresque qui a été réalisée, du coup, de refaire, par exemple, des façades de bâtiments en pierre, de rénover et aussi de construire entièrement en terre crue. Peut-être que je disais une bêtise avec cette façade en pierre, avec la fresque.
Oui, bah pour commencer, on peut prendre l'exemple de la fresque, puis je ferai suivre le micro. Et donc, c'est une maison en bauge, un peu hétéroclite. Il y avait du ciment, il y avait des briques de terre cuite, il y avait un peu de tout. Donc, c'était ça aussi l'enjeu de l'enduit de corps avec Thomas Enfray à la base, parce qu'on avait, on devait tramer aussi le tour, remettre une bonne couche de terre pour le côté homogène, puis rappeler aussi cette harmonie enfin, de bauge, de terre crue de Saint-Sulpice. Et la fresque, en fait, sur la terre, et c'est très bien aussi parce que ça augmente sa durabilité, parce que ça va être la terre aussi qui est derrière, toute la masse de terre qui va plutôt éponger l'eau, qui va absorber, plutôt que la fresque aussi. Il y avait cet intérêt-là. Que la terre arrive, ça n'étonne pas trop. C'est un bon complément, en tout cas, à la filière biosourcée. Ça se mélange très bien aux végétaux et on peut faire de la terre allégée avec beaucoup de fibres et très peu de terre pour amener des corrections thermiques dans le bâtiment. Parce que ça va être un très mauvais isolant la terre, donc on va vraiment l'utiliser plutôt pour ajouter de la masse et pour justement capter les calories en trop, et notamment si on veut se préparer au réchauffement climatique et canicule déjà en cours, c'est la terre qui va nous permettre d'être toujours tempérée à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même les grands avantages. Donc ça peut se décliner en cloisons intérieures, en même des murs derrière des poêles, des sources chaudes pour capter et diffuser la chaleur. Ça peut être finalement aussi les enduits, parce que les enduits, c'est finalement en terre, en tout cas, c'est les enduits primordiaux d'origine. Ça a toujours été le plus simple. Ça craint l'eau, mais voilà, si c'est bien conçu, avec un bon débord de toit, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a plein d'autres techniques. Voilà pour ce que j'ai apporté. Pour la fresque, à la base, on avait fait tester sur les 2 ans, c'était juste de la terre crue, on avait des mélanges donc, à la fibre de paille de blé, cellulose, un peu de cellulose et surtout copeaux de bois. Donc c'était un jeu en fait avec le tanin et la cellulose, et je faisais migrer le tanin avec plusieurs resserrages consécutifs pour que ça vienne de l'intérieur à l'extérieur et que ça vienne fermenter ma masse et la surface, et ça rendait beaucoup plus résistant à l'abrasion, donc soit résiduellement d'eau ou même quand on vient toucher la fresque, la manipuler. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, en fait, c'est la terre, mais aussi avec tout ce qu'on peut adjuvanter naturellement. Quel complément, quelle chimie il y a derrière, tout ça, c'est à redécouvrir aussi. Voilà.
Ouais, c'est à redécouvrir. Pardon, Flo, tu voulais dire ?
Et juste par rapport à... On arrive sur des questions techniques un peu, et tu as parlé de bauge à un moment... donc peut-être est-ce que vous pouvez préciser comment est-ce qu'on construit avec la terre et quels sont les différents modes de construction, wow, de façon un peu imagée pour qu'on puisse se représenter les choses
schématiquement et depuis la nuit des temps, c'est sous nos pieds, c'est creusé et c'est mis en œuvre au plus près avec les végétaux qui sont aussi les plus près de nous. Et chaque bassin de vie a développé ses techniques de construction. Le bassin de Rennes, essentiellement, c'est la bauge. Et la bauge, c'est une construction monolithique, enfin massive, en un seul bloc, de petits morceaux empilés les uns sur les autres dans l'épaisseur du mur par levée de 80 cm environ. Et selon les coins du pays, ils ajoutaient un peu de fibre ou pas, selon la texture ou la richesse ou même le goût du maçon du coin, j'ai l'impression. Enfin bon, il y a une pluralité de mettre en œuvre une seule technique, et là, du coup, c'est celle d'ici. Et après, il y en a une multitude d'autres que je ne sais pas si je dois détailler, en vrai. Mais qui s'appellent torchis, adobe, pisé, et qui ont des variantes d'adjuvantation, d'épaisseur, qui sont porteurs ou non porteurs, voilà, qui sont séchés avant, bon, voilà.
Ici, on est d'accord que c'est pas séché, c'est une terre qui est naturellement à la base humide, elle est séchée, c'est...
Pour la mise en œuvre, La petite spécificité, je pense qu'on connaît tous de la Bretagne en général et du pays rennais, c'est qu'on est comment dire ça, généreusement arrosé.
Ouais, on peut dire ça.
Ouais, on peut dire ça comme ça. La nature ayant horreur des grands efforts, si elle est naturellement humide, autant au sortir à son excavation que par le prochain arrosage naturel. Le sécher étant le plus vain des efforts qu'on puisse faire, on se l'évite. Donc en fait, les techniques qu'on va retrouver dans le pays rennais, c'est plutôt des techniques dites humides, avec un apport d'eau qui est assez conséquent. Donc ça va être des techniques la bauge qui demande ce qu'on appelle un état plastique. Bon, ce qui parle peut-être plus à tout le monde, un état pâte à modeler. Voilà, ça parle peut-être plus à tout le monde. Torchis également. Donc là, on rajoute un petit peu plus de fibres. Et c'est également une matière qui est assez humide, un petit peu plus humide même que la bauge. Et pour tout ce qui va être embellissement des bâtiments, les enduits, on est encore plus humide, parfois plus fibré, parfois moins fibré, selon à quelle couche on en est de l'embellissement. Moins fibré, plus on est vers l'extérieur, moins c'est fibré en fait pour un effet un peu lisse et assez durci. Donc ça, c'est les techniques qu'on va retrouver dans nos régions. Et il y a des techniques qui sont plus sèches, là où la terre elle est extraite plus sèche et surtout où les précipitations sont moins régulières, sont pas forcément plus importantes ou moins importantes en quantité globalement, mais où il va y avoir 15 jours entre deux orages. Alors que nous, on en a un petit peu tous les jours pour se sentir bien, quoi.
Bien hydraté.
C'est ça, exactement.
Et ici, à Saint-Sulpice, du coup, vous avez appris vos métiers à partir de ce qui existait, c'est-à-dire qu'il y a des maisons, des étables qui sont exclusivement, je ne sais pas, en bauge ici, dans ce village ?
Mais effectivement, le territoire est un territoire de bauge. Cette technique qu'on vient d'expliciter un petit peu. Et on retrouve ce patrimoine un petit peu partout, dans le cœur de bourg notamment. Autour de nous, on a plusieurs exemples. Et c'est aussi ce contexte-là, ce contexte territorial-là, qui a incité les élus de la commune à penser aussi les futures constructions dans ce cœur de bourg en retrouvant l'usage de ce matériau.
Donc en fait, c'est du patrimoine. C'est quelque chose qui existe déjà et qu'on...
Et qu'on appelle de l'innovation.
Et qu'on appelle de l'innovation. Mais c'est pas facile, finalement, d'innover, quoi. C'est là qu'on s'en rend compte, quoi. Et du coup, moi, ça me donne envie de savoir comment vous avez appris vos métiers. C'est-à-dire, vous avez grandi... Je sais pas, vous êtes dit, tiens, il y a des constructions en terre, ça, je vais en faire mon métier. Est-ce que vous avez appris avec des anciens ? Est-ce que vous avez appris avec des nouvelles générations qui... Comment ça se passe, en fait, pour apprendre à devenir maçon ?
Alors moi, j'ai appris en quittant la fac parce que ça me saoulait la fac et je me suis retrouvé à bosser avec le père d'un pote sous le coude et avec à restaurer une maison au bord de la mer en bâti ancien et où il y avait beaucoup de matériaux biosourcés, c'était pas le mot à l'époque, on disait des éco-matériaux, enfin de la terre, de la paille, du chanvre, du bois, et on a mis en œuvre des enduits isolants, des cloisons en torchis, une dalle en chaux, de la tomate. Enfin, on a mis en œuvre des matériaux sains. On a restauré une maison, en fait, comme ça se faisait en la respectant. À cette époque-là, la terre, il y avait beaucoup moins de filières, elle était beaucoup moins prenante, prégnante que maintenant. Bah, elle existait dans le patrimoine, mais elle n'était pas remise autant au goût du jour. Et c'était une maison pierre. Du coup, j'ai appris à faire de la maçonnerie avec de la chaux et de la terre crue. Et après, j'ai fait une formation en restauration du patrimoine où il y avait un module bois, un module pierre, un module terre. Et depuis, l'offre de formation, elle a varié et augmenté. Et je vais laisser le dernier maçon formé parler de sa formation à lui.
Oui, carrément. Je suis sorti l'année dernière des compétitions, donc une formation ou un diplôme maçon terre crue, ça s'appelle comme ça. Plusieurs écoles autour de Rennes, il y en a bien 4, si je ne me trompe pas, Côte-Baptiste, Noria à Redon, Taïklis aussi à Dinan, près de Dinan, et plus peut-être, il y a restauration patrimoine, mais il y a aussi pour devenir éco-constructeur, on pourrait dire ça comme ça aussi. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y avait déjà un intérêt. Pour le coup, moi, j'ai découvert la terre crue au hasard, il y a peut-être 8 ans, 9 ans, comme ça, dans un article d'architecture, un petit article tout petit, dans un grand magazine, et qui parlait d'une construction en terre. Je me disais, mais on peut construire en terre? Et puis après, j'ai regardé plein de choses, je me disais, oh, mais je suis bête alors. Mais oui, mais il y a de la terre à côté de chez moi depuis longtemps, quoi. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte, cette matière, elle est là. Des gens habitent dans des maisons en terre, ils ne savent pas que c'est de la terre non plus. Et donc, on voit bien que c'est là où peut y avoir ce clivage patrimoine-innovation. Bah, ah oui, donc ça existe. Et on peut apprendre la terre, par contre, la terre crue, pour venir à la question, de plein de manières différentes. Donc, il y a ces formations-là. Mais il y a sur le terrain, comme disait aussi Thomas, puis après, pourquoi pas aller plus loin, se complémenter avec la formation. Et il y a tout début, j'avais même commencé avec un chantier participatif avec Ghislain, donc maison en terre crue, pardon. Donc voilà, c'était restaurer une étable et qui était en bauge et la façonner en habitation. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Puis après, il y avait l'idée aussi d'apprendre sur le terrain, voilà, des enduits, faire par soi-même. Et puis un moment de se dire, ok, je me lance dans la Côte Romande, un chantier, je teste, je fais des erreurs, mais j'y vais. Et puis ça force à lire des livres, à lire des articles, même des articles de recherche, et mettre la main à la pâte. Et c'est vraiment une matière où il y a besoin, mon avis, il y a besoin de la toucher, de la manipuler, et même plusieurs terres, elles sont toutes différentes, et de comprendre de son application, de son humidification jusqu'au séchage, voilà, sa tenue dans le temps, tout ça.
Oui, tout à l'heure, ça faisait un peu recette d'alchimiste. Oh là là, on teste, on attend, on regarde, on observe. En fait, c'est beaucoup d'expérimentation pour réussir à trouver les bons équilibres, pour répondre au changement climatique. Si on s'est pris 3 tempêtes en 2 mois ou on s'est pris une canicule.
Oui, complètement. Oui, c'est drôle. Mais bon, après, il faut savoir que moi, je suis encore jeune là-dedans. Il y a plein de maçons, ils ont leur terre, ils ont leur carrière. Ils savent leur mélange, ils ont fait les prototypes, les échantillons. Ils savent qu'avec un terre de fibre, un sable, ça marche nickel. Moi, je sais qu'il faut que je me disperse, donc il faut que je teste tout. Et surtout, ce qui ne marche pas. Et comme ça, c'est ce qui permet aussi de découvrir, de continuer la recherche. Et finalement, je me rends compte aussi, mais tout ce qui est fait là, tout ce qu'on teste, mais c'est des choses qui ont toujours existé. Enfin, Thomas a bien raison. Tout ça, c'est bien là. On ne peut pas poser de brevet sur ça, quoi. Et heureusement. Et je pense que si on a des gros chantiers... Pour le coup, là, c'est intéressant et qu'on travaille, qu'il y a un maçon ou une maçonne sur un territoire. Elle connaît, il connaît ses terres, sa terre. Il a pas mal travaillé avec. Et je trouve que c'est là tout l'intérêt, toute la pertinence aussi d'une matière qu'on ne peut pas mettre dans un tableur parce que toutes les terres sont différentes. Et donc, qu'un acteur ou une actrice, elle arrive elle connaît cette terre et elle est... Elle a passé du temps à la comprendre et que ça marche dans le temps et puis qu'elle peut l'enseigner et le transmettre, voilà, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc c'est une matière vivante pour ça.
Ouais, c'est une histoire de relation et de ressenti avec le truc qui bouge et qu'on modifie en face de nous et que du coup il faut voir ou se tromper, mais en tout cas, quand on la découvre une nouvelle, il faut prendre le temps de lui dire bonjour, lui dire vous, de capter ce qui va se passer Et plus on a l'habitude d'être en relation avec cette même terre, plus on trouve facilement les recettes à mettre en œuvre. Quoi.
Et comment ça se passe, le travail du coup avec les ingénieurs, toute cette approche ultra locale, hyper dans l'expérience et dans le savoir-faire, c'est-à-dire vraiment dans un art des mains. Comment ça se passe, le travail avec les ingénieurs, toute cette chaîne, vous échangez beaucoup, comment ça se passe?
La version courte, ça se passe bien, mais je pense que ce qui va t'intéresser, c'est la version un petit peu plus longue, un peu plus élaborée.
Historiquement, même, ça se passait pas.
Historiquement, ça se passait pas. Ça se faisait sans ingénieurs et ça se passait parfois encore mieux. Voilà, en étant assez honnête sur ce qui se passe. Moi, ce qui est inscrit dans ma pratique d'ingénieur et aussi de maçon, mais quand même vraiment beaucoup moins marqué pour moi, c'est cette relation et cette confiance au sens et à l'expérience. Là où l'ingénieur, il veut objectiver, il veut être sûr, il veut de la science un peu dure, alors que dans le fond, l'ingénierie, c'est surtout de la science molle, quand on est un peu honnête avec soi. Et le fait de reprendre un petit shot d'humilité avec quelqu'un qui comprend en général bien mieux ce qui se passe avec un matériau et avec une manière de construire, que soit malgré les nombreux diplômes et heures passées sur les bancs de l'école, ça fait du bien, honnêtement. C'est beaucoup d'écoute. Ça prend du temps et du temps, malheureusement, on en a assez peu dans notre société. Et ce truc-là d'être à l'écoute des problématiques des uns et des autres, ça permet à chacun d'exprimer finalement chacun ses savoir-faire et de sortir une synthèse qui est hyper intéressante dans le sens où on a un apport technique qui est, que moi je trouve assez indéniable, et en même temps, côté mise en œuvre en maçonnerie, un savoir-faire qui est juste top, avec des choses qui s'expliquent assez peu, et à partir du moment où on sait travailler ensemble et s'écouter, c'est extrêmement enrichissant. Et de lâcher pas mal de lest sur... la compréhension fine, exacte de certains phénomènes, ça fait beaucoup de bien. Et en fait, ça n'empêche pas de construire et de belles choses et des bâtiments qui sont sûrs et pérennes pour des durées extrêmement longues. Enfin, on n'est pas là pour bâtir quelque chose qui sera déconstruit dans 30 ou 50 ans. Vraiment, c'est des bâtiments qui sont faits pour être entretenus aussi, ce qui est difficile avec les matériaux modernes ou contemporains. Où c'est des matériaux qui sont très techniques. Là, la terre, c'est quelque chose qui peut s'approprier, qui s'observe, qui se vit avec le temps et qui permet cette durabilité-là qu'on n'a pas forcément en soi avec les bâtiments qu'on construit depuis après-guerre, on va dire.
On va plus avoir beaucoup de temps pour ce moment avec vous autour de la terre crue à Saint-Sulpice-la-Forêt, mais parce que d'ici une demi-heure, le maire va parler, et puis on a encore des personnes qui vont venir après sur le plateau. Mais je me demande, historiquement, justement, ça s'est un peu dessiné dans ce que vous disiez, comment ça se passait la construction d'une maison, par exemple, avant.
Ouais, il y a des choses qui se disent. Moi, je suis pas historien de l'architecture ou de la construction, donc merci de pas prendre mes propos pour une vérité acquise. Alice, t'es calée sur le sujet. Mais de ce que j'en ai entendu, de ce qu'on m'en a rapporté, ça a pas toujours été historiquement des personnes qui construisaient leur propre maison. Ce qui se faisait, c'était plutôt des maîtres maçons qui en gros étaient embauchés à la saison ou à une partie de la saison pour organiser un début de chantier, dire on va faire comme ça, comme ça, comme ça, faites-moi confiance, ça va très bien se passer, qui faisaient au début avec les gens et qui la semaine d'après ou deux semaines après, passait sur l'autre chantier qui supervisait dans le village de côté ou ainsi de suite. Et en fait, il tournait comme ça sur un territoire où il transmettait et il faisait avec les gens. Mais c'était pas, ils avaient pas, enfin les agriculteurs ou les gens qui vivaient dans le coin n'avaient pas la science infuse de c'est comme ça qu'on fait parce qu'on a vu nos anciens. C'est quand même un, c'était déjà quelque part professionnalisé et on faisait confiance à quelqu'un pour avoir un ouvrage qui est pérenne. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire, donc ça peut-être déconstruit un petit peu cette image de tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire, mais en ayant quelqu'un qui nous apporte un savoir-faire et une sorte d'expertise qui fait qu'on va bien faire, on va faire pérenne et ça va très bien se passer.
Il y a le super bouquin Architecture en terre crue en Ille-et-Vilaine qui parle bien de tout ça. Et il est vrai qu'il y avait un maître maçon qui était lui-même aussi souvent paysan, mais ça se transmettait vraiment de génération en génération, ce genre de métier là aussi. Et donc il n'y avait pas forcément énormément de fonds, et pour travailler la terre, ça mérite vraiment d'être en collectif, parce que il faut aller assez vite, il y a des saisons à respecter, et puis il y a la paysannerie aussi à continuer après, souvent. Ce qui est important aussi à noter, c'est que tous les outils qui étaient utilisés pour la maçonnerie, c'était bien souvent aussi des outils de paysans, quoi. Alors, je pense bien à la scie aussi pour couper la bauge, qui était la scie pour couper, ouais, coupe-foin aussi des paysans, quoi. Et mais tout ce qui était bêche finalement ou fourche et compagnie, ouais. Donc il y avait cette nécessité en fait de construire avec ce qu'il y a sur le coin, mais il y a eu quand même énormément d'apprentissage aussi. Par des accidents, enfin en tout cas de ce que j'ai lu dans Architecture en terre crue en Ille-et-Vilaine, où au départ il y avait des simples carrés, donc les encadrements bois, des ouvertures, mais au bout d'un moment ça pouvait s'affaisser, ça pouvait tomber, et petit à petit il y a eu des améliorations, des liens avec des charpentiers aussi, et les doubles carrés sont arrivés pour amener plus de stabilité, solidité. Donc ça s'est fait quand même aussi avec le temps, il y a eu un savoir comme ça. Et mais il faut savoir que la terre, bon, bah, ça s'est quand même distribué depuis de millénaires, donc... Et puis peut-être en centre-ville, c'était plus des colombages, il y avait moins d'espace et plus de charpentes. Et effectivement, s'il y avait plus de sous, ça pouvait être aussi plus de pierres, des soubassements plus hauts pour protéger des inondations. Voilà. Mais il y avait en tout cas une grosse contrainte liée à l'économie et au temps passé. Voilà. Donc, et au savoir-faire aussi. Mais je crois que même aujourd'hui, on respecte toujours ça. On regarde comment c'est fait aussi, si ça tient et pourquoi ça tient debout. On regarde ça et il le faisait déjà, je pense bien, à l'époque.
J'ai le temps d'une dernière toute petite question. Finalement, ouais, moi, ce qui m'interroge, ce qui me fera un peu rebondir, c'est que construire local et durable, c'est aussi aller à l'encontre... d'une logique qui fait qu'on construit des choses pour avoir à les reconstruire dans 15 ans, 20 ans, parce que ça crée du profit de reconstruire sans arrêt. Là, finalement, en installant ici, du coup, en construisant en terre crue, on est bien d'accord, vous n'êtes pas en train de développer une filière pour vous implanter économiquement avec l'idée d'un essor... on va dire pas industriel, mais dans le sens, dans cette logique-là, marchande un petit peu. Et ça, c'est quelque chose que du coup qui n'est pas, enfin qui est valorisé, le fait qu'on va construire une fois, ça va être pour longtemps, et du coup après potentiellement vous n'aurez pas de boulot de suite ici.
Si, l'enjeu c'est quand même que le projet à Saint-Sulpice participe, comme beaucoup d'autres projets, à la dynamisation d'une filière.
Okay.
Et d'une filière économique. Même si le premier objectif c'est bien évidemment de construire ici de l'habitat, des logements dans ce centre-bourg. Pour l'habiter, mais parmi les objectifs indirects aussi de ces démarches innovantes, c'est bien aussi d'aider une filière à se structurer pour être en mesure demain eh bien, de pouvoir être beaucoup plus présente aussi sur tout un tas d'autres projets de construction pour, vous avez cité le béton, voilà, pour moins de béton et plus de terre.
Et dans une éthique À un moment, c'était quoi qui était utile ? Système productif non industrialisé ? Enfin, je ne sais plus, c'est des mots qui étaient dans la filière. En tout cas, dans une éthique plutôt de multiplier les acteurs que de les hiérarchiser et les verticaliser. Enfin, voilà. Du coup, l'idée, c'est plutôt de démocratiser des techniques ou de les rendre accessibles au plus grand nombre pour qu'elles soient appropriées et réplicables, mais par les petits, que de s'approprier les choses pour les garder, grossir et avoir une mainmise sur le territoire.
Et monopoliser, quoi.
Ouais, diffuser plus que concentrer, qui est une sorte de, finalement, de donnée d'entrée de l'industrialisation, en fait. L'efficacité, elle est dans un lieu de production concentré, optimisé. Là, c'est pas tout à fait l'approche, en tout cas, que la filière prend à l'heure actuelle, mais il y a d'autres acteurs qui ont d'autres approches. Qui répondent à d'autres besoins, qui sont tout aussi valides dans la société dans laquelle on est et qui est extrêmement variée. On n'est pas détenteur d'une unique vérité et on n'est pas élu et ni illuminé, on va dire, d'une vérité qu'on détiendrait. Je pense que ça fait aussi écho à l'humilité qu'on a de travailler un matériau qui nous donne à réfléchir tous les jours. La richesse d'avoir à le retravailler, d'avoir à s'adapter et d'avoir quelque chose qui est enrichissant personnellement dans notre expérience de notre métier, de notre activité. Ouais.
Et en finissant, et dans la même ligne, et c'est probablement le matériau de lui-même y résiste. Du coup, c'est peut-être la seule manière de développer le matériau cru, c'est de garder cette humilité, cette relation aux soins, à la matière, au vivant, au ressenti, quelque chose qui est dans l'ordre de la sensibilité. Et possiblement, la terre, elle va arriver par d'autres endroits. Mais ce ne sera pas la filière terre crue. Ce sera possiblement le matériau, il arrive pour aller plus haut. Mais ce ne sera plus de la terre crue. Ce sera de la terre stabilisée. Moi, j'aime bien dire que c'est plutôt la terre qui m'a stabilisé que moi qui stabilise la terre. Mais bon, voilà, il y a un jeu avec ça.
Un tout petit dernier truc, parce qu'il y a la filière terre, donc il y a les constructions en neuf aussi, mais il y a aussi tout ce qui est restauration et bâti ancien notamment. Et là, il y a tout un développement économique, mais aussi une nécessité de tous ces bâtiments qui sont soit la charpente qui est délaissée, un bâtiment qui devient une ruine. Non, c'est trop dommage. C'est le moment, en fait, de tout de suite la restaurer, que ça nous fasse des habitats. Et même tout, ou même éviter que tous ces habitats soient aussi rénovés de manière... peut-être non pertinente et que ça casse en plus le bâti qu'autre chose et qu'on vive moins bien aussi dans les habitations. Donc il y a la filière terre, ça, oui, il y a le soin à la matière, à la terre, puis aux habitants.
Merci.
Merci beaucoup.
Pour la suite, avant 17h, donc on est un peu en retard, mais on invite les personnes, une personne du Guibra à venir parler de l'activité commerciale, des activités commerciales à Saint-Sulpice-la-Forêt, des projets d'activités commerciales, et aussi Guillaume Bonneau, que nous invitons, à nous rejoindre.
Nous, c'est la radio court-circuit.
Ou avoir des choses sur radio. Check ça.
Radio.